Et après Martin, retrouvons maintenant Benoît Brunet. Bonsoir, Benoît.
Salut, Mario.
Ça donne bien la blessure à Plekanec, parce que sinon, tu perds un joueur au ballottage, assurément.
Ouais, ben écoute, ça, c'est une bonne nouvelle pour Marc Bergevin, parce qu'il va être en mesure d'acheter du temps puis de continuer à évaluer son personnel. J'ai hâte de voir la décision qu'il va prendre quand tout le monde va être en santé. Écoute, le gros problème, Sherbach n'a pas joué un match depuis le début de la saison. Très ordinaire dans le camp d'entraînement. Alors, je sais pas si c'est lui qui a arrêté Souma au ballottage ou peut-être lui trouver une autre formation via transaction, mais là, on achète du temps. Et écoute, c'est de l'autre côté, c'est quand même, écoute, ça va peut-être faire drôle, là, mais c'est une mauvaise nouvelle qu'on perde de Plekanec parce que
je regarde les chiffres. Oui, il joue bien.
Ben, il joue bien, puis je regarde les chiffres en désavantage numérique. On est à 72,2%. Je sais qu'il y a juste 6 matchs de jouer, mais en désavantage numérique, c'est un gars qui est solide. L'autre chose, les mises en jeu. On n'a pas beaucoup de bons joueurs de centre pour gagner des mises en jeu. Fait qu'en fin de match, désavantage numérique, t'as besoin d'un joueur de centre qui est solide au niveau des mises en jeu. Fait que ça, c'est, écoute, sans dire que c'est une lourde de perte. C'est une perte pour le Canadien présentement. Mais ça va donner du temps à Marc d'acheter du temps pour voir qui va bouger dans son personnel au cours des prochaines semaines.
De toute façon, je pourrais pas te garantir que Plekanec finirait ou finira l'année avec le Canadien de Montréal. Parce qu'avec tout le monde en santé, il va y en avoir d'autres décisions difficiles à prendre par rapport au personnel qu'on va garder, hein, Benoît. Et c'est un signe du fait que probablement, je pense que c'est assez logique là, de le dire ainsi, qu'il y a plus de personnel de qualité à la disposition de Claude Julien cette année, là.
Ben absolument. Puis avant que la saison commence, puis avant que je dirais que le camp d'entraînement commence, les attentes n'étaient pas vraiment élevées envers cette formation-là, mais le début de saison fait en sorte qu'il y a eu une compétition qui s'est installée au camp d'entraînement, puis en début de saison, c'est la même chose. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ce sont tous des joueurs de qualité? Peut-être pas. Est-ce qu'on a beaucoup de joueurs de premier plan? Non. Mais le talent que tu possèdes présentement, puis face à quelques années de professionnel de plusieurs joueurs, ben, tu n'as pas le choix de manœuvrer de cette façon-là. Mais il reste que c'est quand même intéressant. Puis, tu sais, tantôt, je te parlais de Sherbach. Il y a Charles Ludon qui ne jouera probablement pas demain. Mais tu sais, Sherbach, à un certain moment, comme Carl Osner, là, Mété s'est blessé, mais c'est une blessure vraiment majeure, peut-être que non. Fait qu'on a décidé, ben, prendre une petite journée de congé. Mais il faut que tu donnes l'opportunité à ces gars-là de jouer aussi. Parce que, écoute, là, t'as un camp d'entraînement, t'as 6 matchs de jouer. Osner a joué le dernier. Là, Sherbach n'a pas joué encore. Tu sais, la roue, il s'installe. Là, t'as beau travailler fort dans les entraînements. Si tu joues pas dans un match ou si tu te retrouves pas dans des situations de match, mais ça va peut-être être difficile pour lui de suivre le rythme quand il va revenir dans l'alignement. Fait que ça aussi, ça va être à surveiller au cours des prochains jours, même des prochaines semaines, comment on va l'utiliser. Parce qu'il faut qu'il joue au hockey, ce jeune-là. Là. Tu veux pas nuire à son développement. Est-ce que ça va être à Montréal? Est-ce que ça va être ailleurs? Est-ce que ça va être dans les mineurs si tu te soumets au ballottage et il joue pas? Est-ce que tu peux l'envoyer pour une petite période en conditionnement, pour conditionnement physique? Tu peux faire ça aussi, mais il faut qu'il joue du hockey assez rapidement, Sherbach, si tu veux qu'il suive la parade.
Là. Non, je suis bien d'accord avec toi. Par ailleurs, est-ce que c'est tout naturel pour toi que ce soit Hudon qui soit retranché de l'alignement pour faire de la place à Delaurier ou t'aurais peut-être quelqu'un d'autre?
Ça, c'est une question difficile, mais je regardais encore les trios avant qu'on se parle, Mario, puis tu sais, tu regardes le top 6, là, puis je parle de top 6, je compare pas ça au Maple Leafs, au Penguins.
Non, non, celui du Canadien, là.
Mais le top 6 du Canadien, je regarde le troisième trio après. Là, t'as Byron avec Kotkaniemi, c'est un jeune de 18 ans, lui, il a pas le choix d'être dans l'alignement. Puis l'autre, c'est Armia, qui est allé chercher via transaction, qui est droitier, c'est un gros bonhomme. Offensivement, est-ce que Charles Hudon est meilleur que lui? Moi, je pense que oui. Mais Charles Hudon, pour être efficace, moi, je pense pas que c'est sur un quatrième trio qui doit jouer. Faut qu'il joue dans ton top 9. Faut qu'il se retrouve au moins sur un troisième trio. Fait que ça, c'est quoi? C'est une petite police de séance. C'est la compétition à l'interne qui va faire en sorte qu'il y a des décisions qui vont se prendre. Puis si Claude Julien n'est pas satisfait d'un joueur, ben là, tu peux le réinsérer dans l'alignement. Mais quand je regarde le quatrième trio, si c'est Plekanec au lieu de Pekka, puis tu mets ça avec Delaurier, ben ça ressemble plus à un trio typique de la Ligue nationale d'aujourd'hui, Mario.
Mais juste une petite question sur Hudon. Qu'est-ce qu'il fait pas pour l'avoir, cette chance-là, dans le top 9, là, ou sur un troisième trio? Qu'est-ce que Claude Julien ne voit pas dans son jeu?
Je sais pas, c'est une bonne question. C'est une bonne question, puis moi aussi, je me la pose régulièrement, parce qu'offensivement, il y a quand même... Il est allé chercher 30 points l'an passé, 10 buts. Son différentiel était de moins 10. Je sais qu'il a copé de 2 pénalités dans le match contre les Blues. Est-ce qu'on n'était pas satisfait de ça? C'est peut-être ça, une petite claque sur les droits. Mais Charles Hudon a toujours eu du succès offensif tout partout où il est passé. Puis c'est comme plein de joueurs. T'sais. Junior, il a été bon. Dans la Ligue américaine, il a récolté ses points quand c'était le temps de récolter ses points. Moi, j'ai vécu la même chose. Guy Carbonneau, qui a une plus grande carrière que moi, a vécu ça aussi. À un certain moment, tu dois te trouver une chaise. Je ne sais pas encore c'est quoi sa chaise à Charles, parce que c'est pas un gars top 6, je pense pas. Est-ce que ça peut être un gars top 9, mais il faut que tu sois responsable défensivement, parce que souvent, dans un bon club, ton troisième trio peut affronter les meilleurs trios des clubs adverses. Si t'es bon défensivement, tu en donnes un peu offensivement, tu peux écouler du temps à des avantages numériques. C'est là que tu vas chercher ton temps de glace. Fait que lui, là, c'est de trouver sa chaise puis d'accepter son rôle aussi. Parce que des fois, quand tu as un rôle offensif, junior, Ligue américaine, tu aimerais ça avoir le même rôle dans la Ligue nationale. Mais ça, des fois, c'est ce qui arrive. Là. C'est ton temps de glace est coupé, tu te retrouves dans les gradins, tu te retrouves plus souvent sur un quatrième trio qu'un troisième trio, tu peux pas jouer dans le top 6. Tu joues des fois sa deuxième vague en avantage numérique, mais c'est pas la première vague, tu récoltes pas de points, ta confiance est minée. Fait que c'est tout ça là, qu'il faut que lui analyse au cours des prochaines semaines, des prochains mois. C'est quel genre de carrière il veut avoir, mais moi, tu sais, quand je le regarde jouer, à part ses pénalités, j'ai rien à lui reprocher, là. Tu sais, c'est un bon patineur, il est impliqué. Des fois, dans sa zone, c'est un peu plus difficile, mais ça, c'est normal, c'est pas un gros bonhomme. Mais offensivement, à chaque fois qu'il est sur la glace, il va créer des choses, puis il est intense, puis il travaille. Fait que il n'y a pas vraiment de reproche, mais là, c'est le fait que Deslauriers, moi, pour moi, puis Shaw cadre pas mal plus comme des gars de quatrième trio de la Ligue nationale moderne.
Ozna, qui va demeurer en uniforme pour le match de demain, est-ce que c'est une bonne décision par rapport à la gestion de ton vestiaire ou juste par rapport à la qualité de son jeu? Et qui devient plus vulnérable? Bon, on sait que Mété prenait des rotations aujourd'hui, mais au-delà de ce qui s'est passé à l'entraînement, pour toi, qui devient le défenseur le plus vulnérable à être retranché?
Ben après, là, si Mété revient, puis tu veux garder Ozna dans ton alignement, c'est pas compliqué, ça se passe en toilette puis Ben. Puis Ben m'a surpris depuis le début de la saison, puis il a laissé tomber les gants contre Pat Maroon dans le match contre Saint-Louis. Je le trouve un peu plus rapide, puis un peu plus en confiance présentement.
Il peut jouer à droite aussi, hein? C'est un point qui joue en sa faveur, je pense.
Oui, puis défensivement, je trouve qu'il, l'an passé, je le trouvais hésitant dans son territoire. Là, je le sens un peu plus agressif, puis il se fait pas souvent battre dans des situations un contre un. Puis Ouellet, il joue quand même du bon hockey. Mais c'est quand même les deux gars les plus faciles à retrancher de l'alignement. Fait qu'à un moment donné, Mété va revenir, il va jouer 6 minutes, puis après ça va être chez Weber qui va revenir, je sais pas, à la mi-décembre, peut-être avant, là, parce qu'il a déjà commencé à patiner, mais les deux gars faciles à sortir de l'alignement, pour moi, c'est Ouellet puis Ben. Ça va se passer entre eux autres quand Mété va réintégrer l'alignement. Mais Ozner a assez bien joué pour mériter un autre départ. Tu sais, c'est quand même un vétéran de longue date. Je l'écoutais parler, ça va vite. Aujourd'hui, dans la Ligue nationale, tu dois jouer vite. Je l'ai senti un peu hésitant, puis ça, c'est tout à fait normal. Écoute, un vétéran qui a une séquence de matchs comme lui avait, là, puis là, tu te dis, le premier match, je suis pas là, là. Veux pas, là, même si t'as de l'expérience, là, il y en a un peu de nervosité qui embarque Mario, je suis convaincu, là, puis je l'ai senti de temps en temps un peu hésitant, mais quand tu regardes ce qu'il a fait au camp d'entraînement, puis comment la façon qu'il a joué l'an passé, c'était beaucoup mieux dans le match contre Saint-Louis. Fait qu'on verra ce qui va se passer. Puis, tu sais, le luxe, là, je sais pas si on devrait appeler ça un luxe, parce qu'on n'est pas un club de premier plan qui est supposé aspirer à gagner une coupe, là. Mais on a plein de joueurs. Tu sais, on a beaucoup de joueurs de profondeur dans cette équipe-là. Fait que des joueurs de profondeur, ben qu'est-ce que ça fait? Ben ça crée une compétition à l'interne. Puis une compétition à l'interne, ça veut dire que ça force les gars à être bons à tous les matchs. Quand t'es pas bon, ben bang, t'es sorti de l'alignement. Puis ça, c'est des munitions pour Claude Julien, parce que ces bons joueurs sortiront pas de l'alignement. Puis, écoute, ces joueurs de profondeur, ben, ils vont avoir une rotation. Puis, une rotation de gars qui se donnent à 100% tous les matchs, ça peut être bon.
Les Sénateurs d'Ottawa, donc l'adversaire des Canadiens demain, c'est eux qui accueillent le tricolore à Ottawa. 3 victoires, 2 défaites et 1 nulle. Et j'imagine qu'on se motive un petit peu de la même façon qu'on le fait à Montréal avec Guy Boucher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas personne qui s'attendait à grand-chose. C'est des histoires qui se rejoignent d'une certaine façon. Et bien malin, celui qui peut garantir que le Canadien va aller gagner ça demain à Ottawa, Benoît.
Ben, la bonne nouvelle, c'est que Tkachuk sera pas là.
Oui.
Ça, c'est parce que je l'ai regardé jouer dernièrement, là, depuis, il était blessé en début de saison, là, il s'est reblessé. Là, j'ai vraiment aimé de la façon que ce gars-là se comporte, tu sais, c'est style nord-américain, nord-sud, là. Puis c'est un gars qui dérange, puis c'est un gars qui va avoir une belle carrière dans la Ligue nationale. J'espère qu'il sera pas trop blessé souvent, là, parce que déjà 2 blessures en jeune âge, c'est peut-être pas la meilleure chose qui peut lui arriver, mais c'est pas compliqué. Moi, je pense que le système de jeu a changé à Montréal. Puis c'est un peu la même chose. Tu sais, Carlson est parti, on a échangé Hoffman, on a changé un peu la dynamique des joueurs au niveau du vestiaire. Puis là, tu arrives avec un système de jeu. Puis les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent l'entraîneur parce qu'ils veulent rester dans la Ligue nationale. Pis quand l'entraîneur met un système de jeu en place, puis les gars le respectent, peu importe la qualité du club, des fois, ça va fonctionner parce qu'il y a des clubs qui veulent pas... parce qu'ils sont trop talentueux. Tu sais, j'ai regardé les Pingouins hier contre Toronto. Ça ressemblait pas mal plus aux Pingouins de l'an passé puis des dernières années que les Pingouins qu'on a vus contre le Canadien cette année. Fait que là, il y a quelque chose qui a changé au niveau de la dynamique. L'entraîneur a dû mettre son point sur la table, puis là, il a dit, c'est comme ça qu'on doit jouer si on veut gagner.
Mais tu me devances. Je voulais te parler de Toronto, justement de Toronto et Pittsburgh, parce qu'il y avait du talent pour se carrer sur cette glace-là hier à Toronto. Si tu me permets, Benoît, on va juste honorer nos commanditaires, on va entendre quelques publicités, puis on revient revient justement là-dessus, OK? Dans un instant avec Benoît Brunet. Nous sommes de retour avec Benoît Brunet aux amateurs de sport. Benoît, t'amenais ça dans la conversation Toronto-Pittsburgh hier. Il y a deux angles à ça. Premièrement, je suis convaincu quelque part que Babcock est pas fâché d'avoir perdu contre Pittsburgh parce que lui, ça va venir renforcer ses enseignements. Et quand il dit dans son point de presse d'après-match hier, ben on a vu la différence entre nos deux équipes. Une équipe qui a l'expérience des matchs serrés, etc. Et Pittsburgh qui a encore l'empreinte d'une équipe championne et qui prouve à tout le monde du hockey qu'il y a moyen de museler l'offensive des Leafs de Toronto. Alors, beaucoup de données des deux bords hier après ce match-là, n'est-ce pas, Ben?
Ben absolument. Puis, la façon que Toronto a gagné quelques matchs depuis le début de la saison, c'est qu'on marquait plus de buts que l'adversaire. Là, c'était un match, ça ressemblait plus à un match de série. Je suis d'accord avec toi, ton point est excellent, Mario. Pittsburgh, là, il y a quelque chose qui a changé hier. Il y a quelque chose, ils ont dit, on a un test, on veut pas se faire varloper. Puis si on joue de la même façon qu'on a joué contre d'autres clubs, là, je veux pas placer le Canadien là-dedans parce que je veux pas fâcher les gens, là. Mais si tu fais ça contre Toronto, ça peut finir très mal. Fait que, on a réalisé ça. Puis là, je suis convaincu que Jacques Martin a son mot à dire là-dedans. Sullivan, c'est la même chose. C'est du hockey pas mal plus inspiré de la part des Pingouins, pas mal plus solide défensivement. C'est sûr que le retour de Matt Murray, ça l'aide. Mais de l'autre côté, là, je regardais jouer Tavares, je regardais jouer Marner. Ils ont fait des bons jeux, mais quand tu regardes l'ensemble de ce match-là, ils n'ont pas été compétitifs pour les 60 minutes. Puis c'est ça que Bakov voulait dire probablement dans son point de presse, c'est que à un certain moment, là, si tu veux gagner en série éliminatoire, tu veux gagner des matchs 7-6, ça va arriver. Puis 5-4, ça va arriver en série éliminatoire. Mais c'est des matchs de 2-1 puis de 3-2 que tu veux gagner. Puis c'est ça qu'il faut que les Leafs apprennent à gagner des matchs serrés contre des clubs qui sont bons dans la Ligue nationale. Puis, tu sais, je regardais Joe Crosby, c'était pas parfait hier, mais il travaillait, des replis défensifs, c'était la même chose avec Malkin, le temps. C'est ça, gagner, puis apprendre à gagner. Puis ça, c'est le gros défi de Babcock, c'est d'inculquer ça à son club, puis de gérer tout le talent qu'il possède sans William Nylander, qui est pas encore là. Tu sais, c'est ça le travail de Babcock, puis c'est du travail de longue haleine. Ça veut pas dire que s'ils font une série cette année, qu'ils vont gagner parce que le talent est là. Ça prend plus que ça.
Est-ce que j'aurais raison de te dire, si on continue là-dessus, que son défi, c'est de les amener à jouer un style de jeu qui va leur permettre de gagner des grands matchs, de leur inculquer ça, comme tu le dis, sans venir à bout de leur taper ses nerfs? Parce que t'as beaucoup de jeunes joueurs. Bon, Tavares, c'est un vétéran, mais t'as beaucoup de jeunes qui pensent peut-être qu'ils peuvent gagner ça à leur façon. Puis c'est intense, apparemment, d'avoir Babcock dans l'oreille sur un banc. Sûr. Est-ce que tu penses que c'est un défi pour lui de pas venir à bout, de devenir une espèce de fatigant avec ses joueurs?
Ben, moi, je me souviens, après une victoire là, contre Dallas, là, je pense que ça a fini 6 ou 7 à 4 contre les Stars de Dallas il n'y a pas si longtemps. Puis il était souriant après le match, puis il était content d'avoir gagné ce match-là. Mais c'était pas un beau match de hockey défensif pour les Leafs. C'est la même chose pour les Stars de Dallas. Puis il y avait eu un match similaire contre les Blackhawks de Chicago, là, à haut pointage. Mais il a bien géré ce dossier-là à Dallas. Puis il a dit, je suis content de cette victoire-là. On a mieux joué. On s'en va dans la bonne direction. Puis c'est comme ça qu'il doit gérer les médias. Est-ce qu'il gère ça à l'interne de la même façon? Je suis pas convaincu. Mais les joueurs des Leafs présentement, là, peu importe les noms, là, que ce soit Matthews, Marner, parce que Tavares, il a plus d'expérience. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse quand même dans la ligue, là. S'ils pensent qu'ils vont gagner de la façon qu'ils jouent présentement dans la Ligue nationale, ils gagneront pas. Ils gagneront pas une coupe parce qu'il y a des clubs avec moins de talent, un peu comme Washington l'an passé, même s'il y en a beaucoup, là, qui vont arriver, qui vont être prêts à payer le prix, qui vont faire des choses que les Leafs seront pas prêts à faire sur la glace. Bloquer des tirs, se replier, avoir moins de points sur la feuille de pointage à la fin du match. Peut-être pas gagner le Conn Smythe, mais soulever la coupe, là. Tu sais, ça en dit gros. C'est ça le leadership. Puis moi, je pense que c'est ça qui manque présentement aux Leafs. Puis un défenseur, peut-être même deux. Mais s'il écoute l'entraîneur, je sais que des fois que ça tape ses nerfs, écouter l'entraîneur. Puis Babcock, c'est un gars sérieux, là. Mais moi, je regardais les Leafs jouer dans les premiers matchs, Mario, puis je me suis dit, lui, là, il doit pas être très, très content. Même si tu gagnes des matchs.
Mm-hmm. Benoît, en terminant, juste un petit point, parce que Carey Price pourrait égaler Patrick Roy avec son nombre de victoires en carrière, en saison régulière. Laissons faire les comparaisons en série. Patrick Roy, l'avoir comme gardien en saison régulière, peux-tu me faire une comparaison avec Carey Price?
Ah, c'était facile.
Oui.
Tu pouvais toujours. Ben, puis même si tout le monde dit en 92-93, Patrick n'avait peut-être pas été aussi bon en saison régulière, là, quand tu as un gars qui s'appelle Patrick Roy devant ton filet, tu es toujours en confiance. C'est pas compliqué, c'est juste ça. Tu es toujours en confiance. Tu fais une petite erreur là, sur le long de la rampe, 2-1, ah, Patrick est là. Ça marche pas tout le temps, mais c'est comme ça. Fait que quand tu joues de cette façon-là avec un gardien aussi. Qui a une réputation aussi solide, là, tu as moins peur de faire des erreurs quand tu sautes sur la glace. Quand tu fais moins d'erreurs que l'autre équipe, habituellement, tu as plus de chances de marquer et tu as plus de chances de gagner.
Benoît, un gros merci. Je te souhaite une belle fin de semaine, mon ami, puis on se reparle la semaine prochaine, évidemment.
Toi aussi, Mario, merci.
À très bientôt, Ben. Merci beaucoup. Benoît Brunet, donc, et on s'arrête le temps d'une pause. Ensuite de quoi, nous accueillons Philippe Quentin, Marc-Antoine Godin, Jacques Villeneuve et Vincent Destouches. À tout de suite.